Il est midi et demi sur Europe 1, le journal de la mi-journée, présenté par François Claus. Bonjour François.
Bonjour Ombline, bonjour à toutes et tous. Ce furent de beaux feux d'artifice. Ce fut une belle victoire sur le terrain pour l'Algérie. Ce furent de nouveau de regrettables incidents. Près de 300 interpellations, environ 200 gardes à vue de Marseille à Paris en passant par Lyon. Nous ferons le point dès le début du journal avec le service police-justice d'Europe 1. Nous entendrons aussi l'ancien ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, qui lance une polémique sur Europe 1, estimant que ces incidents prévisibles auraient pu être mieux contrôlé et nous irons bien sûr à Alger pour savoir comment la victoire attendue depuis 29 ans a été là-bas vécue. Dans l'actualité de ce lundi 15 juillet, il n'a toujours pas vaincu, mais il est venu, et oui, Simon Rubin l'a vu, Neymar de retour enfin à Paris. L'inquiétude et la colère assisteront dans les Alpes de Haute-Provence à l'heure où les touristes affluent. Voilà les urgences de nuit qui ferment. Notre page été, comme tous les jours, avec un voyage dans le Morbihan aujourd'hui, où un couple de franciliens redécouvre la vie, la vraie vie. Et puis des moustiques aux méduses, Mélanie Gomez du service santé d'Europe 1 nous donnera tous ses conseils pour combattre ces piqûres qui peuvent gâcher nos vacances. Nous irons comme tous les midis retrouver notre consultant Thomas Beuclair sur la route du Tour. Ça sent le sprint massif du côté d'Albi ce soir. Et nous écouterons bien sûr les conseils de lecture de Stéphane Place qui sélectionne pour nous au cœur de la librairie Mola à Bordeaux ses livres de l'été. Un voyage en Amérique aujourd'hui. Sans oublier bien sûr le temps du jour. Bonjour Elena Morna.
Bonjour à tous.
Attention aux orages.
Oui, des orages localement violents entre les Alpes maritimes, le Var et surtout la Haute-Corse placée en vigilance orange. Des orages qui seront parfois stationnaires, déversant de fortes quantités d'eau, parfois de la grêle et de très vives rafales de vent. Ailleurs, c'est une belle journée ensoleillée et venteuse quand même du nord-est au sud-est.
Et on vous retrouve à 12h58 pour une météo complète, Elena. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h avant de retrouver Raphaël Duchemin pour le meilleur de la France qui bouge.
Europe 1.
Pour certains, et ce fut le cas en début de soirée, le symbole était fort. Célébrer en même temps la fête nationale et le pays de ses origines, mais voilà la liesse qui accompagnait les feux d'artifice du 14 juillet et la victoire algérienne 2-1 face au Nigeria en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations a dégénéré. Bonjour Salomé Legrand.
Bonjour.
Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1, aux malheureusement traditionnels incidents du 14 juillet. Il faut donc ce matin ajouter ces violences incontrôlées de pseudo-supporters.
Et oui, dans la nuit, les heurts et les dégradations se sont progressivement substitués aux sincères scènes de joie. À Marseille, les milliers de fans des Fennecs se sont vus interdire l'accès au vieux port. Certains ont bombardé les policiers de projectiles, de bouteilles et de pierres. Les forces de l'ordre qui ont chargé en retour et tiré des gaz lacrymogènes. Il y a également eu de nombreux rodéos en deux roues sur la Canebière. À Lyon, des dizaines de véhicules ont été brûlés. 147 interventions de pompiers au total dans le département pour des feux de poubelles ou de barricades. Chiffre arrêté à 2h du matin. À Paris, des incidents ont également eu lieu dans le 18e arrondissement, dans le 19e où une ambulance a été incendiée et sur les Champs-Élysées notamment, 50 personnes y ont été interpellées, dont une dizaine de mineurs et 202 ont fait l'objet de verbalisations pour conduite dangereuse de véhicules. Un homme en état d'ivresse notoire a été interpellé avec deux couteaux de boucher de 40 cm dissimulés dans un drapeau algérien. Il a été blessé par un tir de lanceur de balles de défense et hospitalisé. En tout, ces échauffourées ont donné lieu à près de 300 interpellations et plus de 200 gardes à vue dans toute la France.
Les précisions de Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1. Invité ce matin sur notre antenne, l'ancien ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, lance une polémique. Il estime, lui, que ces incidents auraient pu être mieux contenus et surtout mieux prévenus.
Moi, je ne mets pas en cause la bonne volonté du ministre de l'Intérieur, mais je constate encore une fois que les clignotants sont tout rouges dans tous les domaines. Donc, il faut qu'il y ait un sursaut.
Oui, donc il n'est pas à la hauteur, c'est ce que vous voulez.
Qu'est-ce que ça veut dire, un sursaut? Ça veut dire qu'il y a incontestablement un travail d'anticipation qui est insuffisant, comme cela a été démontré hier. Ça fait 30 week-ends où il y a des manifestations de gilets jaunes. J'observe qu'il y a un problème d'anticipation. Il faudrait que l'on sache quelles étaient les informations qui avaient, par exemple, été transmises, quels renseignements étaient transmis à la préfecture de police. Et puis, il y a un deuxième problème, c'est le problème de la sanction. Aujourd'hui, les sanctions ne sont pas suffisantes, donc il faut qu'il y ait la certitude de la sanction. Donc, ça fait deux éléments qui doivent susciter un sursaut.
Brice Hortefeux, l'ancien ministre de l'Intérieur, ce matin sur Europe 1 avec Pierre de Villeneuve. Et à Alger, pendant ce temps-là, au-delà de ces débordements en France sur le plan sportif, cela fait 29 ans que l'Algérie attendait une finale de Coupe d'Afrique des Nations avec ce scénario. Comme seul le sport sait parfois les écrire, un but à l'ultime seconde qui qualifie les Algériens. On imagine, Nour Chahine, que ce fut, au sens positif et joyeux, une véritable explosion hier soir à Alger. Est-ce qu'il y a eu des incidents ?
Non, en fait, aucun débordement à signaler ici à Alger, en tout cas, même pas de dispositif policier renforcé. En fait, la police s'est contentée de gérer la circulation dans les rues, car dès que l'arbitre a sifflé la fin de la rencontre, l'ambiance était à la fête. Nous avons entendu les cris de joie sortir de chaque foyer, juste après les klaxons des voitures et les chants à la gloire de l'équipe nationale de football ont pris le relais pour vous dire à quel point cette équipe mobilise autour d'elle tout un peuple. Hier soir à Alger, il était devenu difficile de circuler par choc contre par choc dans un brouhaha incessant. Les voitures étaient pratiquement à l'arrêt. Nous avons entendu toute la soirée les explosions des feux d'artifice qui brillaient de mille feux sur le ciel algérois. Et ce matin, la presse algérienne faisait l'éloge de ce qu'on appelle désormais les héros. Sur les titres et les manchettes, on pouvait lire « Bravo, l'espoir est à nouveau permis ».
Alors, ces héros, Nour, cette équipe sur le terrain, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'elle est à l'image de la génération qui soulève dans la rue vendredi après vendredi ?
Oui, déjà que cette finale se jouera un vendredi. Tout un symbole pour les Algériens qui ont choisi ce jour de la semaine pour revendiquer pacifiquement un changement radical du système de gouvernance. Et le parcours exceptionnel de l'équipe algérienne de football est perçu comme un signe de la libération des énergies positives depuis le départ de Bouteflika et de son clan. Une victoire footballistique de l'Algérie pourrait confirmer cet élan d'espoir pour les Algériens qui ont assisté impuissants à un enchaînement d'échecs sur le plan politique et économique, le résultat d'un système corrompu qu'ils ont fini par chasser du pouvoir.
Merci beaucoup Nour Chahine, correspondant d'Europe 1 en Algérie.
Il est 12h36, la suite du journal, François Claus.
Il s'était fait attendre, il avait séché le début de la reprise de l'entraînement, il en a profité pour jeter un peu de sel sur la plaie parisienne de la remontada du Barça. Je parle bien sûr de Neymar. Bonjour Simon Rubin.
Bonjour.
Vous êtes au camp des loges, alors confirmez-nous, il était bel et bien là ce matin Neymar?
Il est enfin là, effectivement. Il est arrivé sur les coups de 9h ce matin, venu directement de l'aéroport. Il est d'ailleurs arrivé en dernier, Neymar, qui va notamment passer des examens médicaux, notamment pour dresser un bilan de cette cheville douloureuse qu'il avait privée cet été de Copa América. Alors, je me trouve juste devant la sortie du centre d'entraînement, entouré d'une dizaine de supporters, dont Anthony. Il est venu de Dunkerque. Il a fait un crochet sur la route du retour de vacances pour apercevoir les joueurs. Et il a beau porter le maillot de Neymar, il est comme beaucoup de supporters, ben Neymar, on n'en veut plus.
Il est venu, mais il peut repartir. Son comportement est aussi en train de tuer le club. Je pense que les joueurs qui sont à côté de lui, ils ne peuvent pas accepter ça, quoi. Et donc, au bout d'un moment, il faut arrêter. C'est une star, c'est un bon joueur, mais pour ce qu'il a fait, ce qu'il a démontré, à Paris, ce n'est pas une star. On lui a fait assez de cadeaux, mais non, il ne faut plus lui en faire. Et j'espère que Leonardo ne va pas lui en faire.
Supporter interrogé par Charlotte Moreno, ce supporter qui parlait de Leonardo, c'est le directeur sportif. Il a rendez-vous avec le Brésilien aujourd'hui pour évoquer son avenir. Du côté du club, on n'en fait plus tellement mystère, on veut se débarrasser du joueur. L'idée de ce rendez-vous est donc autant d'acter ce désamour que de préparer une possible sortie du Brésilien.
Merci Simon Rubin du service des sports d'Europe 1. L'actualité à l'étranger en deux télégrammes. La Serbie intégrera-t-elle l'Europe en 2025 ? Le président Macron en visite officielle à Belgrade aujourd'hui. Et puis du côté de Hong Kong, les manifestations anti-chinoises qui prennent de plus en plus d'ampleur.
A tout de suite sur Europe 1 pour le journal de la mi-journée présenté par François Claus. Il est 12h38. Il est 12h40, c'est la suite du journal. François Claus sur Europe 1.
Avec un nouvel et dramatique accident ce matin sur un passage à niveau, peu avant 10h dans la commune d'Avenay-Val-d'Or, à proximité d'Épernay. Collision entre un TER et une voiture, le bilan fait état de 4 victimes. La conductrice et ses 3 enfants, passagers d'une voiture qui s'est donc retrouvée bloquée au milieu des voies, alors que les barrières étaient visiblement normalement baissées, selon le témoignage du maire de la commune que nous avons joint ce matin. C'était l'une des problématiques qui avait émergé lors de la crise des gilets jaunes en France, la désertification médicale, une situation qui est encore plus prégnante en ce moment dans les zones de vacances. À Sisteron, dans les Alpes de Haute-Provence, colère et inquiétude des habitants de la ville qui devront désormais la nuit composer le 15 pour trouver une place dans les hôpitaux voisins. Les urgences de nuit ferment dans cette région montagneuse et enclavée, ça veut dire 3/4 de route. En moyenne, Nathalie Chevance, la correspondante d'Europe 1 dans le sud-est de la France, a rencontré une maman, Stéphanie, maman d'une petite Léa atteinte d'une maladie rare. Écoutez-la.
Beaucoup d'inquiétude, de la tristesse aussi, parce que quand même je trouve ça tellement triste qu'on en arrive là et de me dire, bon, il y a quand même des vies en jeu. Là, il y a celle de ma fille, parce que moi je peux en parler, mais il y a des enfants qui font des crises d'asthme en pleine nuit, il y a des gens qui font des malaises cardiaques en pleine nuit. Comment ça va se passer? Il y a un médecin d'astreinte, il n'est pas sur place. C'est bien le problème. 15 minutes pour une urgence vitale, ça peut quand même être long. Moi, pour ma fille, c'est trop long. C'est pas du tout rassurant, on remplit pas la mission de service public. La vie de ma fille et d'autres personnes sont en jeu là, dans cette histoire.
Si vous aviez un message à adresser à la ministre de la Santé?
Eh bien, en France, il y a encore un service public. C'est quand même un droit qu'on finance avec nos impôts. Il y a des vies au bout, du bout, du bout de tous leurs programmes et de tout ce qu'ils veulent mettre en place, qui soi-disant doivent améliorer l'accès aux soins. Le service d'urgence à proximité 30 minutes maximum. Enfin, là, du coup, moi je suis à 5 minutes et je ne pourrais pas accéder aux urgences. Faire des économies, c'est bien. À la fin, au bout du bout, il y a des enfants. Moi, si jamais cette nuit, je fais un AVC, je suis maman de 4 enfants, ben voilà, comment ça se passe? On oublie les zones rurales alors qu'on draine énormément de population. Il y a 18 000 passage aux urgences de Sisteron. Enfin, c'est juste dramatique, quoi. Inadmissible.
Voilà ce témoignage fort recueilli par Nathalie Chevance, correspondante d'Europe 1 dans le sud-est de la France. Prudence et vigilance si vous êtes en Haute-Corse aujourd'hui. On annonce sur les montagnes 60 mm de pluie et de grêle, violents orages. Nous y reviendrons tout à l'heure avec la météo complète d'Elena Morna. Beaucoup d'entre vous ont rejoint ce week-end les campings, les plages, la campagne. Pas vous, Mélanie
Mais
Gomez.
Non, malheureusement.
Bonjour, vous êtes notre spécialiste santé et on va voir avec vous le meilleur moyen de se protéger de ces insectes, toutes ces bestioles qui adorent nous piquer pendant l'été et qui viennent gâcher nos vacances. On va d'abord écouter ce qu'en pensent les gens. Tout le monde a une recette par rapport aux piqûres et vous nous direz ce qu'il faut retenir là-dedans. Écoutez.
Moi, je mets du vinaigre blanc uniquement et ça pique plus, ça ne me gratte plus après.
Alors, il y a quand même le mythe de la piqûre de méduse, quand même. Il faut que quelqu'un fasse pipi sur la piqûre, voilà.
En fait, moi, quand je jardine et que je me pille avec des orties, j'utilise du vinaigre blanc.
Ben, nous, quand on se fait piquer par les moustiques, c'est le citronnelle qu'on passe.
Eh bien, moi, j'attends que ça passe.
Voilà, on attend que ça passe. Ça, tout le monde peut le faire. Mais alors, Mélanie, pipi, vinaigre blanc,
effectivement. D'abord, je crois qu'on va quand même briser définitivement le mythe de la piqûre de méduse. Hein. Inutile de faire pipi dessus, ça sert à rien et en plus, ça risque de s'infecter. Donc, si vous faites piquer par une méduse, d'abord, il faut rincer. Alors, attention, pas à l'eau douce, mais à l'eau de mer ou au sérum physiologique. Car l'eau douce peut faire éclater les petits fragments urticants laissés par la méduse sur la peau. Et ensuite, on peut gratter justement ces filaments, mais très délicatement, avec une carte postale ou une carte bleue. Enfin, approcher une source de chaleur de la piqûre avec un briquet ou un sèche-cheveux, ça désintègre le venin. D'ailleurs, même conseil pour soulager les piqûres de guêpes, sans oublier de les désinfecter après avec un antiseptique ou alors avec ce fameux et classique vinaigre blanc, effectivement.
Alors le vinaigre blanc, là, ça marche
bien. Ça marche bien, oui. Alors, le pire, c'est peut-être par contre pour les moustiques, effectivement. Là, on n'y pense pas forcément. Il y a des crèmes apaisantes, certaines à base de cortisone, qui fonctionnent bien. Il en existe aussi des spécifiques pour les bébés. Il suffit de vous demandiez à votre pharmacien. Et puis, si vous n'avez pas tout ça sous la main, une petite astuce, vous pouvez mettre sur les piqûres une compresse imbibée d'alcool, ou même, c'est peu connu, mais on peut appliquer aussi un peu de déodorant. Ça, en général, a priori, en été, on l'embarque tous dans nos bagages.
Oui, il y a la friction de Foucault qui rentre d'ailleurs dans ce registre-là, un petit peu cher, mais ça marche. Merci pour toutes ces précisions. Ça, c'est de l'actualité, les vacances. Le temps des vacances, justement, Europe 1 toute la semaine est au cœur de cette belle Bretagne où nous allons partager les sensations et les rencontres de Jean-Gabriel Bourgeois, aujourd'hui dans le Morbihan, qui a rencontré du côté de la commune de Damghan un couple de franciliens pour qui le Morbihan, Jean-Gabriel, est synonyme de changement de vie.
Oui, Yann et Audrey vivent leur première saison à la tête du camping de la plage à Damghan. Ils ont tout plaqué en région parisienne où ils ont toujours habité. Monsieur était conducteur de bus scolaire, madame éducatrice sportive. L'année dernière, ils ont dit stop et banco pour la douceur bretonne.
Au début, le camping, c'était pas du tout la première idée. Nous, on voulait changer de vie, on voulait se rapprocher de la mer. Et on avait fait un petit road trip il y a quelques années avec les enfants en camping-car en Tour de Bretagne. On s'est arrêté dans pas mal de campings et on s'est regardé avec mon mari. On a dit pourquoi pas reprendre un camping.
Le couple vend sa maison dans l'Essonne pour un nouveau départ en Bretagne. Ils débarquent en septembre dernier pour que leurs deux enfants soient scolarisés. Et pour se faire la main, Audrey et Yann décident d'ouvrir le camping pendant l'arrière-saison. Ça leur a permis de se roder avant le rush de l'été.
Alors Jean-Gabriel, question évidemment, comment cette intégration se déroule, notamment avec les habitués du camping?
Eh bien l'intégration, ça passe par des détails. Par exemple, on change la plaque d'immatriculation de la voiture pour mettre le numéro 56, le département du Morbihan. On est tout de suite mieux accepté. Ces ex-franciliens installent des drapeaux bretons un peu partout. Ça donne le ton, évidemment, auprès de ceux qui reviennent tous les ans au camping.
Ça fait 40 ans qu'on fait du camping, on change pas les habitudes. Et alors les nouveaux propriétaires?
On va faire plusieurs connaissances.
au fur et à mesure du temps.
Qu'est-ce que ça change pour vous?
Un certain dynamisme, je pense, que ça, qui va repartir dans le camping.
Quoi qu'il vienne de la région parisienne, ça, on s'en fiche, mais c'est vrai qu'on voulait quelqu'un qui s'occupe bien du camping, et là, c'est le cas.
L'accueil est bienveillant, et forcément, ça a conforté les nouveaux patrons dans leur choix de changer de vie.
Aucun regret sur notre vie d'avant.
Aujourd'hui, absolument pas. Un peu plus pour les enfants. Pendant tout le mois de septembre, octobre, novembre, à chaque fois, c'était « oui, mais j'ai perdu mes copains ». Et puis voilà, au bout d'un moment, c'est quand même mieux ici.
On travaille au grand air et même si on travaille, on a quand même l'impression d'être un petit peu en vacances tous les jours.
Voilà, les vacances tous les jours avec quand même le défi de faire tourner leur affaire.
Merci Jean-Gabriel Bourgeois, lui aussi, hein, il travaille, mais il est un peu en vacances du côté de la Bretagne. On le retrouvera pour son voyage tout au long de la semaine.
Le Tour de France à suivre dans votre journal, 10e journée de course en ce moment entre Saint-Flour et Albi, les coureurs en route vers les Pyrénées avant la relâche. Demain, François Claus, vous serez avec le consultant d'Europe 1, Thomas Vauclair. Il est 2h49, le journal de la mi-journée présenté par François Claus.
Et nous allons bien sûr partir sur la route du Tour de France pour la 10e étape.
Europe 1. Le Tour de France avec Dequeninck. Fenêtres, portes, volets, terrasses composites. Dequeninck.fr.
Et oui, parce qu'on a déjà parcouru plus de 1500 km, il en reste 1800 encore à venir. C'est vous dire si rien n'est joué, 10e étape sur un superbe parcours aujourd'hui qui mènera les coureurs de Saint-Flour dans le Cantal jusqu'à Albi dans le Tarn pour la 2e étape la plus longue de ce Tour de France. Bonjour Thomas Vauclair.
Bonjour tout le monde.
Si je vous dis Thomas que ça sent un peu la veillée d'armes avant la journée de repos de demain et avant les Pyrénées la semaine prochaine, vous souscrivez ?
Ah bien oui. Disons que je pense quand même que ça sera une journée relativement tranquille, un peu plus classique que ces derniers jours. Bien sûr, le relief est un petit peu escarpé, mais on peut quand même assister à un sprint massif. Et je pense que c'est ce qui se produira parce que après l'étape très difficile qui a emmené les coureurs à Saint-Étienne ou alors l'étape avec une échappée au long cours vers Brioude. Aujourd'hui, il y a quand même des équipes de sprinteurs qui n'ont pas été servies et qui vont tout faire pour une arrivée massive.
Alors si on doit, Thomas, mettre en évidence un sprinteur ou un baroudeur qu'on n'aurait pas encore vu aujourd'hui et qui aurait l'occasion de s'exprimer aujourd'hui, vous nous citeriez qui ?
Honnêtement, au niveau des sprinteurs, c'est compliqué parce qu'il y a vraiment un très beau plateau. C'est assez homogène. Il y a pas, on n'est pas du, comme il y a quelques années en arrière, quand on avait des Eric Zabel, des Alessandro Petacchi ou des Marc Cavendish, Marcel Kittel, qui dominaient vraiment et qui gagnaient 4-5 étapes par Tour de France. Là, les sprinteurs se partagent un petit peu. Pourquoi pas Caleb Ewan, l'Australien de la Lotto Soudal, qui est quand même très talentueux, qui a du punch et qui a des chances de s'imposer aujourd'hui.
Et c'est ce qui rend d'ailleurs cette incertitude, la course aussi intéressante à suivre cette année, entre autres. Thomas, comment doit se comporter un maillot jaune et son équipe dans ce genre d'étape ? C'est protéger le maillot d'abord ?
Ouais, c'est pas très compliqué pour eux aujourd'hui, pour la Dequeninck Quick Step de Julien Lafilippe. Pourquoi ? Parce que vous avez plus de 138 coureurs qui sont à plus de 10 minutes au classement général. Donc en fait, ils ont simplement, entre guillemets, c'est jamais simple, mais ils ont juste à surveiller une trentaine de coureurs, parmi lesquels aucun n'a le droit de s'échapper. Ils savent très bien, ils ont en mémoire les dossards de ces coureurs-là. Et ensuite, les équipes de sprinteurs, dont ils font partie d'ailleurs, travailleront ensemble pour une arrivée massive. Mais la clé, c'est de ne pas laisser non plus plus de 10 coureurs s'échapper, parce que là, ça devient compliqué pour contrôler justement cette échappée. Mais les intérêts des équipes de sprinteurs sont concordants et on aura, je pense, 3 voire 4 équipes qui travailleront en tête de peloton et qui se débrouilleront pour ne pas laisser une échappée trop nombreuse se développer.
Merci beaucoup Thomas Vauclair pour vos commentaires toujours aussi pertinents et bonne route, un magnifique parcours qui part de Saint-Flour et qui va jusqu'à Albi dans le Tarn. À tout à l'heure à l'antenne Thomas.
À ce soir, merci.
À ce soir, bien sûr, 19h15, le Club Tour sur Europe 1. On va vous parler d'un autre transfert, là, mais il est encore plus cher que celui de Neymar. Oui, si. En plus, elle sourit. Je parle, bien sûr, de la Joconde qui ne va pas changer de club, mais de salle sans petits pas de déplacement qui nécessite une logistique hors norme, à l'image d'une œuvre hors norme. Bonjour, Mathieu Charrier. Eh oui, on ne déplace pas la Joconde comme un vulgaire meuble.
Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Déjà parce que c'est le tableau le plus vu au monde, 15 à 20 000 visiteurs chaque jour. Et puis parce qu'elle est particulièrement fragile. Vous savez, cette Joconde peinte à l'huile sur un panneau de peuplier de 77 cm sur 53, panneau très fin qui avec le temps s'est légèrement courbé. Une petite fente est même apparue, explique Sébastien Allard, directeur des départements des peintures du Louvre. Il est au micro de Yann Chenouda.
Il y a une fente qui passe juste au-dessus du visage de Mona Lisa. Donc elle sera déplacée de quelques dizaines de mètres. Une caisse a été faite pour la transporter, caisse climatique. Elle sera présentée dans cette salle qui est la galerie Rubens, dans une vitrine blindée, climatisée, absolument identique à celle dans laquelle elle se trouve aujourd'hui dans la salle des États.
Voilà, celle des États qui doit être rénovée. Hein. C'est pour ça que cette Joconde sera déplacée demain, jour de la fermeture du musée. Une dizaine de personnes est mobilisée, conservateurs, régisseurs et agents de sécurité, bien sûr. La dernière fois que la Joconde a été déplacée, c'était il y a 15 ans. Objectif, qu'elle retrouve sa place dans la salle des États à la mi-octobre, juste avant le début de la grande exposition consacrée à Léonard de Vinci.
Merci beaucoup Mathieu Charrier. On peut aller au musée, on peut lire des livres, surtout en été. C'est le temps béni de cette lecture et nous allons tout l'été vous donner des choix de lecture grâce à notre ami Stéphane Place, correspondant à Bordeaux, qui arpente les allées de la librairie Mola. Il va nous emmener en Amérique aujourd'hui. Stéphane, ça s'appelle Jeannesville, une histoire américaine, mais qui, vous allez le voir, a quelques résonances françaises.
La grande récession ou crise financière internationale, comme nous l'avons nommée il y a une dizaine d'années en Europe, c'est dans ce contexte, le 23 décembre 2008, deux jours avant Noël, qu'un magnifique 4x4 noir sort de l'usine General Motors de Jeannesville dans le Wisconsin. C'est en fait le dernier véhicule que fabrique cette unité de production implantée là depuis plus de 80 ans et que GM a décidé de fermer purement et simplement. Un séisme social qu'Amy Goldstein raconte à travers ce reportage sur plusieurs années. Un récit émouvant que vous recommande Émilie Sabatier, libraire chez Mola.
Le déclassement va être terrible pour la plupart de ces ouvriers qui faisaient partie de l'élite ouvrière américaine de la ville et qui vivaient plutôt très bien. On voit finalement les non-choix qu'ils ont. Soit ils continuent de travailler, mais ils sont obligés de travailler à des milliers de kilomètres dans d'autres usines General Motors. Soit on leur propose une reconversion professionnelle en changeant, en faisant des études. Et là, on s'aperçoit que tous les personnages qui ont choisi de faire des études et de changer de vie professionnelle, finalement, c'est un échec total.
Les 200 dollars par semaine de course finissent par représenter les dépenses du mois. La précarité et les sacrifices s'installent. L'auteur, Amy Goldstein, suit différentes familles frappées par la fermeture de cette usine.
Je cherchais un endroit sur lequel écrire car j'étais complètement obsédée par la manière de raconter ce que signifiait pour une communauté tout ce qu'il y a de plus ordinaire et pour ses habitants de voir disparaître un nombre important d'emplois attractifs. Ça s'est passé dans plein d'endroits, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, mais je cherchais une ville qui n'avait jamais fait partie de ce que nous appelons la Rust Belt, la ceinture de la rouille, cette frange du Midwest où le secteur industriel est en difficulté depuis longtemps. Je voulais un endroit dans lequel les problèmes économiques seraient quelque chose d'entièrement nouveau. Jeannesville remplissait cette condition. Son économie a été florissante pendant des années, jusqu'à ce que soudain, quelques 9000 emplois furent supprimés entre 2008 et 2009.
Jeannesville, une histoire américaine, et pas seulement américaine, tant les mécanismes, le déclassement, le cynisme décrits dans ce livre font écho à des fermetures vécues également en France.
Merci beaucoup Stéphane Place.
A tout de suite François Claus pour les grands titres de l'actualité, la météo d'Elena Morna et puis dès 13h sur Europe 1, le meilleur de la France bouge avec Raphaël Duchemin.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver tout l'été sur Europe 1. Dans un instant c'est la France bouge et aujourd'hui on s'intéresse aux innovations françaises pour nos piscines. A tout de suite.
Vous écoutez Europe 1, il est 13h. Et vous êtes avec François Claus.
Et surtout avec Elena Morna pour la météo du jour. Les orages se renforcent, Elena, dans le sud-est.
Oui, entre le Var et surtout et les Alpes-Maritimes et surtout sur la Haute-Corse avec des pluies musclées. Une vigilance orange à cause de ces orages violents. Bastia a déjà été copieusement arrosée et ça n'est qu'un début. On craint des orages stationnaires déversant jusqu'à 100-120 mm de pluie en 2 ou 3 heures. Localement, on pourrait avoir aussi des espèces de mini-tornades sous les orages ou de la grêle. Soyez prudents. Les dépressions responsable de cette instabilité se décalera ensuite vers l'Italie en fin de journée. Retour au calme cette nuit et demain. Sur le reste du pays, on a quelques débordements nuageux, voire quelques averses aussi entre le nord-est et les Bouches-du-Rhône. Et puis du soleil partout ailleurs. Quelques nuages à signaler du côté des Hauts-de-France. Des températures qui vont de 18 degrés à Dunkerque jusqu'à 33 à Montpellier.
Merci Elena.
Et merci à vous François Claus. On vous retrouve ce soir pour le grand journal du soir sur Europe 1. Vous êtes avec Raphaël Duchemin.
Les grands titres de l'actualité, il y en a 4. Un nouvel accident dramatique ce matin sur un passage à niveau du côté d'Épernay. Une voiture s'est retrouvée coincée au passage d'un TER. 4 victimes, la femme dans la voiture et 3 de ses enfants. Près de 300 interpellations, 200 gardes à vue de Paris à Marseille en passant par Lyon. C'est le bilan des incidents qui ont suivi hier à la fois la fête du 14 juillet et la victoire de l'Algérie en demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations. Il n'a toujours pas vaincu, mais il était là ce matin. Une semaine de retard pour Neymar qui a repris l'entraînement. Et puis on suivra aujourd'hui la 10e étape du Tour de France, celle qui mène les coureurs jusqu'à Albi dans le Tarn.
Merci beaucoup François Claus et à ce soir. Vous écoutez Europe 1, 13h01, c'est le meilleur de la France bouge.